Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Frédéric Tribalo, chargée d'études urbaines chez Dixit.net. Le 24 août, j'ai rencontré Didier Witowski, directeur d'études chez EDF et co-auteur de l'étude « Les femmes et le changement climatique » publiée en juin par le think tank Terra Nova. Dans cet épisode, nous allons nous demander si les femmes sont plus sensibles aux enjeux climatiques que les hommes, et ce, quel que soit leur âge, leur classe sociale ou leur milieu géographique. Retrouvez toutes nos publications et notre newsletter sur Dixit.net. Bonne écoute!
Bonjour Didier Witkowski, vous êtes directeur des études chez EDF et vous êtes co-auteur avec Thierry Pêche d'une étude récemment publiée chez Terra Nova. Terra Nova a pour but de produire et de diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe. Votre étude, qui est donc sortie en juin, s'intéresse aux femmes et au changement climatique. Est-ce qu'on peut revenir sur le cadre de votre étude et pourquoi vous avez choisi notamment un tel sujet ?
Oui, absolument. Et il faut d'ailleurs revenir à la raison d'être de l'étude elle-même, dont l'objet n'est pas centré sur la question des femmes et l'environnement. Cette étude, nous l'avons lancée il y a 2 ans. Ce sera la 3e édition cette année. Et c'est une étude internationale, donc une enquête d'opinion dans 30 pays sur la perception du changement climatique, de ses conséquences, de la compréhension du phénomène, et également des solutions acceptables, souhaitées, et des comportements des individus, des particuliers pour lutter contre le changement climatique. Donc l'idée de départ était de mettre sur la table une enquête d'opinion qui fasse le point sur où en est la population mondiale avec cette question du changement climatique. Cette idée, elle nous est venue dans les années 2017-2018, quand on a réalisé que, juste après les fortes mobilisations, notamment dans la jeunesse occidentale, les premières mobilisations contre le climat et les rapports les plus alarmistes du GIEC, il nous a semblé qu'on passait dans une autre phase de la mobilisation pour le climat qui était avec on voyait une application beaucoup plus forte des opinions publiques, alors que précédemment on était quand même beaucoup dans un jeu interétatique avec des conférences, des COP régulières qui jalonnaient des actions mais toujours prises à un niveau national voire supranational mais qui n'impliquaient pas tellement les populations. À partir de 2018, c'est également posé la question d'un certain nombre de régulations fortes, de transformations souhaitées d'un certain nombre de secteurs économiques ou de modes de consommation qui font que on ne peut plus faire comme si la question de la lutte contre le climat était uniquement une question qui se discutait dans les sphères dirigeantes et qui n'impliquait pas le public. Donc, la question de l'adhésion des consommateurs et des citoyens à cet enjeu nous paraissait cruciale et donc elle méritait une grande étude internationale parce qu'on est évidemment sur un sujet mondial et qui nous paraissait intéressant aussi de comparer les résultats selon les différentes aires géographiques et culturel, parce qu'au fond, il n'y avait pas de matériaux disponibles jusqu'alors, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enquête mondiale qui permettait de faire le point sur cette question. Et donc, à EDF, on a décidé de monter cette étude, de la publier chaque année.
D'accord.
Et de mettre à disposition toutes les données de l'enquête. L'enquête est en open data sur notre site. Donc, n'importe quel chercheur en sciences sociales peut récupérer les données, les traiter lui-même et travailler sur les données. En discutant en présentant les résultats de l'enquête à l'équipe de Terra Nova, est né des discussions avec Thierry Pêche, l'idée de creuser cette question du rapport au... Est-ce qu'il y avait un rapport particulier des femmes à cette question climatique? Et on avait quelques hypothèses qu'on a souhaité vérifier. Donc certaines ont été vérifiées, pas d'autres d'ailleurs. Et notamment de la part de Thierry, la question de savoir si la mobilisation des femmes était... Alors, on sait hein, que les femmes sont beaucoup plus mobilisées en faveur de l'environnement que les hommes. La question était de savoir si on pouvait observer la même chose sur le climat et si c'était une tendance qui transcendait les clivages sociaux.
Ouais.
Et donc, tout le travail qui a été fait d'analyse de données. Et pour cette étude-là, pour ne pas trop compliquer le traitement, on a décidé de se restreindre à la France. Donc l'étude porte sur les femmes et le climat en France.
Alors, on ne va pas dévoiler toute l'étude, elle est quand même assez courte en plus à lire, donc ce que j'invite nos auditeurs et nos auditrices à faire, mais on pourrait revenir quand même sur quelques résultats majeurs, quelques hypothèses que vous avez pu du coup tester. Alors, une des premières qui est assez intéressante, c'est que dans l'ensemble, alors vous me reprendrez hein, parce que je vais un peu résumer évidemment, c'est que les femmes seraient nettement moins climato-sceptiques que les hommes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette analyse-là?
Alors oui, c'est un peu dans la lignée de ce que je disais à l'instant sur le fait que la sensibilité environnementale des femmes est quelque chose qui est très documenté dans les études sociologiques depuis au moins les années 70. C'est une constante. Et en revanche, alors nous on la vérifie dans l'enquête parce qu'on a des questions qui portent sur la priorité environnementale et on s'aperçoit qu'effectivement les femmes sont en tendance beaucoup plus sensibles à l'environnement. Alors il faut faire attention parce que en même temps on a aussi des phénomènes générationnels hein, qui se surimpriment sur la question du genre. C'est-à-dire que il y a quand même un clivage entre les générations de l'après-guerre et les générations qui sont nées après les années 80. C'est-à-dire que autant on voit des différences assez fortes entre les hommes et les femmes jusqu'à 60 ans. Au-delà de 60 ans, cette différence s'estompe. Et on a des femmes âgées qui sont beaucoup moins préoccupées par l'environnement que les femmes plus jeunes. Donc, sur des attitudes comme ça, c'est évidemment pas la seule variable. On a également des variables sociales, mais il reste que, toutes choses égales par ailleurs, on vérifie bien cette préoccupation plus forte, cette sensibilité plus forte à la question environnementale, alors qui est chez les femmes en plus très liée à une préoccupation plus forte aussi pour les problèmes de santé. Sur le climat, c'est moins clair. C'est-à-dire qu'on peut pas, dans les préoccupations, parmi les préoccupations environnementales, on a une question qui permet de classer les enjeux. On ne peut pas dire que les femmes sont plus sensibles à l'enjeu climatique que les hommes. En revanche, effectivement, elles sont moins climato-sceptiques. Alors, le climato-scepticisme à l'échelle mondiale, hein, il faut quand même réaliser que ça représente à peu près 30% de la population. 30% de la population, c'est entre 25 et 30. Hein, ça, on va dire qu'on est entre 25 et 30 selon les pays, mais
ce sont des gens.
Ça reste pas négligeable. Et c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop, d'ailleurs, quand on examine les études d'opinion et qu'on prend pour acquis que toute la population est bien sûr mobilisée pour la lutte contre le climat. En fait, non. Il y a une partie de la population qui souhaite. Alors, celle qui refuse l'évidence du changement climatique, elle est résiduelle. Mais en revanche, ces 30% sont plutôt des gens qui considèrent que les hommes ne sont pas à l'origine de ce changement climatique et qu'il s'agit d'un changement naturel. Et donc là-dessus, ce qui est très très sensible, c'est que les femmes sont beaucoup moins sensibles au discours climato-sceptique. Alors beaucoup moins, on est quand même dans des proportions qui sont, on est sur un écart un écart qui est de moins de 10 points hein, à peu près. Mais effectivement, il y a une moindre perméabilité et quels que soient les milieux sociaux. Et ça, là aussi, c'était intéressant de l'observer. Quand on regarde, quand on classe les hommes, les femmes selon le niveau de revenu, le niveau d'éducation, on voit que même dans les milieux sociaux moins favorisés, par exemple, les femmes sont moins climato-sceptiques que les hommes.
Alors, ce qui a encore été remartelé par le dernier rapport du GIEC, que l'espèce humaine était bien à l'origine du changement climatique, mais ça reste très intéressant parce que dans votre étude, en effet, on voit beaucoup de... Il faut faire attention à la nuance. Être moins climato-sceptique, ça ne veut pas dire qu'on est forcément plus sensible aussi, qu'on a une plus grande sensibilité aussi au climat. Donc, ça, c'est intéressant de le souligner. Et c'est des variables qu'on retrouve aussi dans d'autres résultats de votre étude, notamment par exemple sur les changements que vous avez commencé à l'évoquer, sur un militantisme qui serait un peu plus féminin, sur les changements de comportement qui seraient liés surtout à la consommation. Si vous pouvez peut-être revenir aussi un peu sur cette idée.
Mais oui, je vais détailler un peu les résultats là-dessus. Juste avant, je commente juste votre idée sur la question qui vient de la mobilisation pour le climat. Il y a une petite question qui se pose dans cette histoire de climat et de savoir si la question climatique fonctionne de façon autonome ou pas par rapport à la question environnementale. Je m'explique, la question est plutôt de savoir si est-ce que la sensibilité à l'environnement est quelque chose qui est finalement très très parallèle à la question climatique. Est-ce qu'il y a une autonomie de la question climatique, c'est-à-dire dans ses caractéristiques, c'est-à-dire que le fait que on est sur un phénomène qui est essentiellement mondial, on est sur quelque chose qui est peut-être plus impalpable, qui est variable dans ses effets. Autant vous pouvez expérimenter la pollution au quotidien, vous pouvez expérimenter le fait que vous pensez qu'il y a des pollutions, que l'eau peut être polluée à certains endroits, ou que vous voyez des pollutions dans la nature, etc. Le changement climatique est quelque chose qui est beaucoup plus impalpable, et avec des conséquences dont on ne sait jamais si elles sont vraiment les conséquences directes ou pas des changements climatiques, y compris quand on est sur des événements climatiques majeurs, ou des événements liés à des événements de naturels de type incendie ou tempête, etc. Et donc, a priori, on devrait avoir quelque chose qui est jugé de façon différente que la question environnementale de manière générale. Pour l'instant, dans les études, on a un peu le sentiment que vu du public, la question climatique, elle est rabattue sur la question environnementale en général. Et que, cette question de la distinction entre les deux sujets, elle est importante, notamment sur la question du CO2. Parce que si vous ne comprenez pas le mécanisme du CO2, le fait que la production de CO2 est quelque chose qui dérègle à long terme le climat, vous comprenez la question du CO2 comme une question de pollution. Et actuellement, c'est plutôt ce qu'on constate dans les études, c'est que on a encore une compréhension assez faible des réels mécanismes du changement climatique. Et donc, pour l'instant, et ça c'est quelque chose qui est autant masculin que féminin, pour revenir au sujet de notre étude, on ne voit pas de différence là-dessus. Au fond, et j'en viens du coup à la question des comportements et des gestes, les gestes ou les comportements favorables au climat sont globalement compris comme des gestes favorables à l'environnement. Et donc, par exemple, les gens sont persuadés que trier les déchets, c'est sans doute bon pour le climat. En fait, trier les déchets, c'est sans doute très bien pour l'environnement, c'est très bien pour la nature, c'est très bien pour limiter les doses de plastique renvoyées dans la nature, etc. Mais ça a un impact très très faible sur le climat. Et donc, c'est un point auquel on ne prête pas beaucoup attention, mais en tout cas, dans les études, moi, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est quand même une faible autonomie de cette question climatique, finalement, et l'absence de réelles spécificités. Et d'ailleurs, si vous interrogez faites l'expérience d'interroger dans votre entourage, la raison pour laquelle il faut aujourd'hui limiter ou même voire arrêter la production de voitures thermiques, etc. Vous verrez que les gens, en fait, vous parlent assez vite de pollution. Alors, ils vont vous parler de climat, mais en réalité, tout ça s'en mêle parce que vous avez cette question des gaz à effet de serre que la plupart du public confond avec des polluants. Alors, je pense que du coup, quand on revient au sujet de la mobilisation des consommateurs, effectivement, on a du mal aujourd'hui à distinguer véritablement les gestes en faveur du climat de gestes qui sont globalement bons pour l'environnement. Bon, et d'une certaine manière, le problème n'est pas si grave, parce qu'en fait, ce qui est souhaitable, c'est que de toute façon, les gens de leur globalité se comportent de plus en plus en respectant l'environnement et en prenant en compte la question environnementale. Simplement, il serait quand même souhaitable pour l'acceptabilité d'un certain nombre de politiques publiques, notamment, que la spécificité de la lutte contre le climat soit mieux comprise. Alors, vous parliez tout à l'heure de militantisme par la consommation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui distingue les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on voit bien que les femmes sont déjà engagées et sans doute depuis assez longtemps maintenant dans des attitudes qui prennent en compte la question environnementale au moment de consommer. Et on voit dans l'étude, à quel point des comportements comme le fait d'acheter des légumes, de consommer des fruits et légumes de saison, de lutter contre, de faire attention au suremballage, sont des gestes qui sont effectivement plus féminins que masculins en tendance, et qui aussi transcendent les clivages sociaux. Alors qu'on a tendance souvent à, et c'est une réalité, hein, de décrire les catégories supérieures comme étant beaucoup plus sensibles à la question environnementale que les catégories populaires, en réalité, lorsqu'il s'agit des gestes au quotidien, on s'aperçoit que les femmes, quel que soit le milieu social, sont toujours plus impliquées que les hommes de leur propre milieu. Et sur la sensibilité environnementale, si on revient à notre question du début, on s'aperçoit que les femmes des catégories populaires sont plus sensibles à l'environnement que les hommes des catégories aisées, par exemple. Un autre élément de ce militantisme par la consommation, qui est quand même plus féminin que masculin, c'est le fait que les femmes désignent les consommateurs comme étant les acteurs qui doivent aujourd'hui se mobiliser pour le climat, alors que les hommes le font moins. Et un troisième exemple, c'est on a une question dans l'enquête qui recense les cas les occasions de que l'on a eu de manifester, de signer des pétitions, etc. Et dans la liste, il y a le boycott d'un certain nombre de produits. Et bien, le boycott de produits, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratiqué par les femmes que par les hommes. Alors, je cherche le chiffre, mais en même temps, je ne l'ai plus en tête. Alors,
moi, j'ai 51% versus 42%.
Voilà, c'est ça. Bravo. Donc évidemment, quand on constate ce genre de comportement, encore une fois, hein, qui est un peu, qui à chaque fois que l'on constate dans tous les milieux sociaux, évidemment le militantisme féminin via la consommation, c'est évidemment lié aux rôles sociaux qui sont dévolus très majoritairement dans les ménages à la femme pour tout ce qui est du temps domestique. C'est un temps domestique qui est beaucoup plus important chez les femmes, hein, qui est le double de celui des hommes dans les ménages en couple, et qui font que les femmes étant se chargeant davantage des courses, notamment de la gestion du ménage, du foyer. On le voit par exemple dans la mobilisation des femmes pour les économies d'énergie, par exemple, le contrôle de la consommation, veiller à ne pas trop chauffer, etc. Les femmes sont aussi beaucoup plus mobilisées, mais tout simplement parce que c'est aussi c'est la double conséquence d'une sensibilité environnementale plus forte, mais aussi de rôles sociaux qui leur sont dévolus encore très majoritairement et de façon inégalitaire au sein des foyers.
Oui, c'était un lien très intéressant à faire dans votre étude avec les études de féministes ou les études de genre sur le fait qu'en effet, s'il y avait un lien si fort aussi à la consommation ou à la santé et l'alimentation, c'était bien lié aussi aux rôles sociaux des femmes. Et il y a un autre résultat dans votre étude qui pourrait aussi lier à ce que font les femmes au quotidien, mais qui est plutôt une limite dans le comportement dit écologique des femmes ou qui est lié au transport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette limite dans ce comportement ?
Oui, on la voit à deux niveaux. Le premier, c'est la question des politiques publiques acceptables. Et on constate assez clairement que parmi les mesures qui limiteraient le déplacement, en tout cas la circulation automobile, par exemple, le fait d'instaurer un péage urbain dans les centres-villes, le fait de ne plus autoriser que les véhicules électriques dans les centres-villes, se sont même instauré une taxe sur les billets d'avion. Ce sont des mesures qui sont moins acceptées par les femmes que par les hommes. Et le deuxième niveau, c'est celui du comportement quotidien, qui est déjà déjà pratiqué par les individus. Hein. La question qui leur est posée, c'est est-ce que vous faites déjà systématiquement ou presque les actions suivantes ? On a les transports en commun, se déplacer à vélo. Le fait d'éviter de prendre la voiture, les femmes se distinguent pas réellement des hommes pour ces comportements-là. En fait, elles sont beaucoup plus. Elles accepteraient davantage des mesures de type taxation, par exemple. Mais en revanche, en tendance, elles sont plus ouvertes à quantité de mesures de régulation un peu contraignantes à l'avenir sur les comportements, sauf, c'est très clair, en ce qui concerne la limitation des déplacements. Et alors là aussi, il faut revenir à ce que l'on sait. Des emplois du temps des hommes et des femmes différenciés au sein des ménages. Et là-dessus, je saurais trop vous renvoyer vers les études de l'INSEE, d'ailleurs pas tellement les études de genre d'ailleurs, mais tout simplement les études emploi du temps de l'INSEE, hein, qui sont tout à fait éloquentes. C'est des études qui sont faites par l'INSEE pour la DARES, le ministère de l'Emploi, et qui montrent que dans ce qu'on appelle le temps domestique, vous avez ce qu'on appelle le temps parental taxi. Hein, le temps parental taxi, c'est le temps passé à conduire les enfants à leurs activités, à les conduire à l'école, les rechercher, etc. Dans une semaine, c'est quand même à peu près 5h20 à peu près par semaine. C'est essentiellement les femmes qui s'occupent de ça. Quand vous prenez les courses, c'est essentiellement les femmes qui en sont chargées. Et donc, quand on évoque des entraves à la circulation automobile, les femmes le ressentent beaucoup plus durement que les hommes, parce qu'en fait, les déplacements routiniers, les déplacements contraints, les déplacements éventuellement entre les zones périurbaines et les zones urbaines, le fait de devoir aller faire ses courses, chercher les enfants, etc., ça se fait en voiture, beaucoup. Et les femmes considèrent que là, on entraverait de façon très grave un mode de vie, on leur compliquerait la vie très très fortement dans un au sein d'un temps domestique qui est déjà très très important. Et même si on regarde le temps parental, hein, c'est je rappelle juste que le temps parental des femmes, c'est par semaine, c'est 24 heures, c'est 13 heures seulement pour les hommes. Donc, ces temps contraints, ces temps de circulation contraints, beaucoup en voiture, sont quand même subis par les femmes. Et donc, elles ont beaucoup de mal à accepter les restrictions de circulation. Alors, il y a la question des temps domestiques, la question de l'inégale répartition des tâches au sein des ménages. Il y a aussi peut-être mais c'est une hypothèse parce qu'on n'a pas... On n'a pas de questions dans le questionnaire qui permettrait de l'étayer, mais il est possible aussi que, par exemple, dans le fait que les femmes sont pas très allantes pour sur le fait de privilégier les transports en commun, par exemple. On pourrait se demander aussi si les femmes dans certaines zones ne préfèrent pas la voiture pour des raisons aussi de sécurité, tout simplement, et que la balance entre automobile et transport en commun parfois peut pencher du côté de la voiture pour ces raisons-là.
Praticité, potentiellement.
Alors, c'est la question de la praticité.
Avec voilà, les courses, c'est pas exactement le plus évident non plus.
Absolument. Si vous avez déjà expérimenté la poussette dans les transports en commun, vous savez exactement de quoi on parle.
Et pour finir, peut-être que vous pourriez revenir sur un point dont on n'a pas parlé, mais qui vous a, je ne sais pas, étonné, ou en tout cas peut-être plus marqué que les autres dans l'étude, et aussi si vous aviez un conseil pour les auditeurs et les auditrices sur une autre étude ou un autre livre ou en tout cas une organisation, une émission à aller regarder pour aller un peu plus loin sur ces questions. Ça peut même être les études de l'INSEE.
Ah, il faut régulièrement aller voir ce que produit l'INSEE ou les organismes de recherche publique qui font un travail vraiment remarquable et qui mettent à disposition des données d'études vraiment intéressantes. On parlait à l'instant de l'étude emploi du temps. Malheureusement, elle n'a pas été refaite depuis 10 ans. Non, il y a un autre résultat qui est un peu étonnant et qui est aussi peut-être un peu contre-intuitif quand on regarde les différences de comportement homme-femme, c'est sur cette question très classique en sociologie du lien entre les attitudes et les comportements. Et dans le domaine de l'environnement, c'est quelque chose qui est très, là aussi, très documenté depuis les années 70, et c'est ce constat que dans les sociétés occidentales depuis la fin des années 60, on a des populations, des opinions publiques qui sont de plus en plus soucieuses de la question environnementale et qui de plus en plus également tiennent à ce que cette question environnementale fasse partie de l'agenda politique, voire votent de plus en plus pour des partis écologistes. Et dans le même temps, on n'assiste pas à un renversement majeur des comportements et un alignement des comportements sur cette préoccupation croissante. Et du coup, dans l'enquête, on a essayé de vérifier ce point, c'est-à-dire de regarder si les individus dans l'enquête qui se déclaraient très très préoccupés par l'environnement, qui mettaient l'environnement parmi leurs préoccupations, les préoccupations essentielles et les préoccupations qui devraient être celles du pays, et de regarder si ces gens-là se comportaient différemment ou pas des autres. À nouveau, on constate cette absence de lien, c'est-à-dire que quand vous êtes effectivement très sensible à l'environnement, alors en tendance, il y a quelques écarts, quelques comportements, quelques attitudes que vous partagez davantage, mais on ne peut pas dire que la sensibilité à l'environnement soit un driver systématique de comportement vertueux. Et quand on regarde la différence entre les hommes et les femmes, alors les femmes sont parfois un peu plus cohérentes, mais on ne peut pas dire non plus que les femmes qui sont souvent, je l'ai dit plusieurs fois, beaucoup plus sensibilisées à l'environnement, on ne peut pas dire que les femmes très sensibles à l'environnement se comportent de façon très très différente des femmes qui sont plus indifférentes. Donc, on voit à quel point la question des comportements n'est pas reliée uniquement à des questions idéologiques, de sensibilité ou de mobilisation personnelle, mais aussi, tout simplement, aux contraintes personnelles, au lieu de vie, aux revenus. Voire à certaines dispositions culturelles, voire et aussi, je le disais tout à l'heure, à la compréhension fine des phenomènes auxquels on a affaire. Je le disais tout à l'heure, hein, à quel point les gens sont à 80% en France trient leurs déchets, en tout cas déclarent le faire. Pour autant, ils sont toujours aussi opposés à la taxe carbone, qui est un des leviers majeurs de lutte contre le changement climatique, en tout cas de transformation en profondeur de l'économie. Et les gens ne refusent pas la taxe carbone uniquement par mauvaise volonté, mais tout simplement parce qu'on l'a vu au moment des Gilets jaunes. Le fait de renchérir le prix des carburants est une remise en cause de ce que sont obligés de vivre parfois sous la contrainte des populations qui, pour des raisons géographiques, vivent trop distants des villes ou vivent dans des milieux périurbains, voire ruraux, dans lesquels ne pas avoir de voiture, c'est quasiment ne plus avoir de vie sociale. Et donc, beaucoup de questions sont devant nous, justement, parce que, on l'a vu récemment avec les propositions de la Commission européenne, les leviers principaux de lutte pour le climat passent notamment par la transformation du parc automobile, et que il faut pas se leurrer, on a devant nous de gros problèmes sociaux et en tout cas des problèmes d'acceptabilité, malgré le fait que les désordres climatiques s'accumulant, on a affaire à quand même des populations qui sont de plus en plus inquiètes sur l'action du changement climatique, mais en même temps, il y a une question qu'on aurait pu creuser, malheureusement, on n'a pas les données dans l'enquête, mais on les aura l'année prochaine. Alors, on aurait vraiment voulu regarder les différences de disposition des publics selon leur type d'habitat. Et l'année prochaine, je pense qu'on étudiera plus profondément ce lien selon le type d'habitat et donc les contraintes qui pèsent sur les personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, mais souvent beaucoup plus les femmes, en ce qui concerne les types de déplacements notamment.
Je suis ravie de pouvoir lire cette étude aussi. Et en effet, comme vous l'avez rappelé, une transition écologique n'est pas sans conséquence sur des changements sociaux aussi. Et d'autant, et pareil, les comportements individuels ne vont pas pouvoir faire la révolution tout seul. Il y a aussi des vraies politiques publiques à mettre en place qui peuvent être douloureuses. Donc, comment est-ce qu'on fera pour que ça se passe bien ? C'est une vraie question. Et on est loin d'y avoir encore répondu, mais c'est aussi pour ça qu'on s'y interroge et que vous faites ce genre d'études. Merci beaucoup Didier. Et puis, on mettra évidemment votre étude sur les femmes et le changement climatique dans la barre d'infos de ce podcast. Et puis, voilà, encore merci et à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.